Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue à nos auditrices et à nos auditeurs et à tous les gens qui vont nous regarder sur Internet. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. La question de la flexibilité de la fiscalité et des dépenses publiques est donc au centre du débat de l'élection présidentielle, comme on a pu le constater dans le cours de la primaire des candidats dits de la droite et du centre. À cette occasion, on a surtout parlé d'impôts et finalement assez peu de ce à quoi ils servent. Les impôts financent les dépenses publiques et ces dernières incluent la consommation des administrations, de l'investissement, que ce soit d'ailleurs dans l'investissement matériel ou immatériel, comme dans le cas de l'enseignement et de la recherche ou encore dans le cas de la santé, enfin des flux de transfert qui expriment la solidarité nationale. Prétendre vouloir baisser rapidement ces dépenses pose de délicats problèmes d'arbitrage, et ce d'autant plus que l'ensemble des études récentes concluent à un impact important des dépenses publiques sur la croissance et donc sur l'emploi. Mais il est aussi clair que la fiscalité en France pose problème, que ce soit quant à l'assiette de l'impôt, ou quant à la répartition de la charge fiscale, ou encore par la multiplication des prélèvements divers. On perd rapidement toute vision stratégique de ce que représentent les impôts. Pour en discuter, j'ai avec moi Louis Adam. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Louis Adam. Louis Adam est commissaire aux comptes, il est expert comptable, il enseigne aussi la comptabilité et il est un spécialiste des problèmes justement de fiscalité. J'ai aussi Charles Sana au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Charles Sana, vous êtes un ancien manager au sein du groupe Altran, technologie de l'information. Vous avez travaillé dans la banque, en particulier à partir de 2006 à BNP Paribas, et vous avez rejoint à partir de 2011 la direction des recherches économiques de la société aucoffre.com, et vous tenez aussi un blog qui est disponible à l'adresse http://insolentia.com. Messieurs, la première question que je voudrais vous poser est donc celle-là. Au-delà de nécessaires réformes de la fiscalité, parce que je pense que personne ne conteste l'idée qu'il va falloir procéder à des réformes de la fiscalité. Est-ce que l'on n'assiste pas aujourd'hui, dans le cadre de la campagne pour la présidentielle, à des formes de surenchère assez démagogiques sur la question des impôts ? Plus sérieusement, qui peut croire dans des déclarations d'intention sur la baisse des impôts, quand ces baisses d'impôts ne sont pas reliées précisément à des questions de dépenses. Charles Sana.
Oh bien. Moi, je crois que la question est très pertinente, d'autant plus parce qu'elle implique, si vous voulez. Donc, on a le blabla traditionnel des campagnes électorales, qu'on va résumer d'une phrase lapidaire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc on va laisser tout ça de côté, car tous les sujets fondamentaux sont totalement occultés. C'est quoi les sujets fondamentaux ? C'est qu'aujourd'hui, la fiscalité, au sens très large, elle repose avant tout sur le travail. Et la vraie question à se poser, c'est comment, dans un moment de notre histoire économique où nous voyons bien tous que le travail est en voie de raréfaction, ou en tout cas le travail salarié ne va plus être forcément le mode de fonctionnement de la société de demain, ni le moyen de répartition de la richesse créée, comment va-t-on faire pour adapter notre système fiscal à ce nouvel état de fait. Et là-dessus, il n'y a aucune réponse. On parle rapidement, enfin, on parle de l'ubérisation de la société, on a l'ubérisation de la fiscalité. Hein. C'est-à-dire que tous ces changements macroéconomiques, à un moment donné, ils ont un impact fondamental sur le fonctionnement même de nos sociétés, sur le fonctionnement même d'institutions aussi vieilles que les impôts, et ça ne peut plus fonctionner de la même manière. Donc aujourd'hui, on a un problème de compétitivité qui est lié à notre fiscalité elle-même reposant sur le travail. Alors voilà, comment on pose le sujet et comment on répond à ce sujet, je crois que c'est là l'un des points essentiels qui devrait être abordé et qui ne l'est pas.
Alors, Louis Adam.
Oui, moi je vais peut-être répondre plus abruptement à ta question. Est-ce qu'il y a surenchère démagogique sur la question des impôts dans la primaire de la droite ou même au-delà, parce que honnêtement, ce discours il est tenu aussi par la majorité présidentielle. Oui, il y a une démagogie. Depuis les années 80, on a des baisses d'impôts sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés. Je rappelle qu'il était à 50%, maintenant il est en taux facial à 33%, et on a rajouté à ce taux facial qui a baissé un nombre de restrictions fiscales qui sont quand même assez considérables. Quand on regarde, j'ai regardé pour venir ici, sur le site du budget, l'impôt sur les sociétés, on a une réflexion selon les années, à partir donc du taux de 33% officiel, on a une réflexion de 25-26%. Donc en réalité, le taux, il est beaucoup plus bas. C'est d'ailleurs ce que l'on trouve, hein. Quand on regarde les taux, effectivement, les PME ont un certain taux, qui est de l'ordre de 28%. On regarde les grandes entreprises, on est à 13%. Et puis on regarde les entreprises du CAC 40, on est à 4%. Bon, y a un problème de base, pas simplement de taux, et il y a un problème de solidarité un peu au niveau de l'impôt, parce que ce qu'on oublie, c'est que l'impôt, c'est certes pour couvrir les dépenses, mais c'est aussi, d'une certaine manière, pour rétablir un peu les inégalités de revenus. Alors, peut-être qu'il faudrait mieux qu'il n'y ait pas d'inégalités de revenus, on peut revenir là-dessus, mais elles existent, pour en répondre. Je regardais pour l'allier aux dépenses. Alors, je vais donner un seul chiffre, hein, je ne vais pas en donner beaucoup. En France, un étudiant de supérieur coûte en gros 15 000 euros. C'est la réalité à peu près dans toute l'OCDE. Mais quand on regarde les pays qui investissent là-dessus, les États-Unis sont à plus de 26 000 euros, 26 500, et le Royaume-Uni est à 25 000 euros. Quels choix sont faits? Voilà, c'est la question. Alors, j'ai pris qu'un seul exemple. On pourrait en prendre d'autres, puisqu'en gros, pour qu'on parle du pacte de solidarité, 40 milliards pour obtenir que l'on prenne, que ça soit la formation brute de capital fixe, hein, pour l'État, ou que ça soit le taux d'investissement, eh ben, depuis 2008-2007, il est en baisse, hein, puisque on a perdu à peu près sur ce taux 10 points.
Alors, c'est extrêmement intéressant. L'un et l'autre, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a évidemment beaucoup de démagogie sur la question fiscale et sur la question des dépenses publiques parce que l'on est en période préélectorale, démagogie d'ailleurs à la fois à droite comme à gauche. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui un changement de situation. Alors, ce changement n'est pas de ces derniers mois. C'est un changement qui a été amorcé il y a grosso modo 20 à 30 ans, mais qui tend à s'accélérer actuellement. Deuxième point extrêmement important. Troisième point important, c'est que effectivement, on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre des abattements fiscaux, entre des niches fiscales qui sont faites et des investissements. Autrement dit, on a un petit peu le sentiment que certaines entreprises, pas toutes, mais j'ai été très intéressé par ce que vous nous avez dit sur la différence entre les entreprises du CAC 40 et les PME, bon, qui elles payent effectivement leurs impôts, on peut le dire. Bon, il y a là des stratégies d'optimisation fiscale qui sont extrêmement importantes. Alors, ça m'amène immédiatement à la deuxième question que je voulais vous poser. On voit très bien que ce soit en ce qui concerne l'impôt qui est payé par les particuliers ou l'impôt payé par les entreprises. On voit que de manière parfois légale, même souvent légale, et parfois illégale, bon, on a eu toute une série de scandales sur ce point, un certain nombre d'acteurs économiques arrivent aujourd'hui à soustraire leurs revenus à l'impôt, faisant peser une large partie de la charge sur les mêmes, qu'il s'agisse des classes moyennes ou des PME. C'est à l'évidence un problème majeur. Ne faut-il pas chercher à comprendre comment s'opère ce qu'on appelle l'optimisation fiscale? Et au-delà, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour remettre en cause justement cette optimisation fiscale sans toucher au dogme européen et en particulier à celui de la libre circulation des capitaux? Charles Sanna, qu'en pensez-vous?
J'en pense que l'optimisation l'évasion fiscale est l'enfant terrible de la mondialisation, de la globalisation, et si on est encore plus proche de nous, effectivement, de la construction européenne, puisque en Europe, même hein, de manière intracommunautaire, est organisé savamment par nos mamamouchis européens, aussi bien le dumping social que son petit frère, le dumping fiscal. Alors, est-ce qu'on peut lutter réellement contre l'optimisation fiscale qui n'est jamais rien de ça? D'ailleurs, le terme en lui-même devrait porter à controverse, parce qu'en réalité, c'est pas de l'optimisation, c'est de la fraude fiscale tolérée, c'est de la fraude fiscale organisée, c'est de l'évasion fiscale légalisée. Légalisée par Bruxelles, qui accepte qu'il y ait, au sein même du même espace économique où il y a libre circulation des biens, des marchandises, des gens, des capitaux, des sous, de tout ce que vous voulez, eh bien on peut aller se faire imposer en Irlande, mais on peut recruter un petit Bulgare à 184 euros par mois de salaire minimum pour le détacher et le faire travailler en France, où le SMIC, lui, est plutôt à 1500 euros, enfin un tout petit peu moins de 1500 euros en brut. Donc voilà, c'est ça l'Europe. Alors est-ce qu'on peut lutter efficacement ou remettre en cause ce qu'on appelle l'optimisation fiscale de manière assez impropre, encore une fois, parce que c'est vraiment de l'évasion fiscale légalisée et tolérée par les institutions européennes, sans justement reposer les fondements de la construction européenne telle qu'elle a été menée jusqu'à présent? La réponse, elle est évidemment non. On remet en cause, en faisant cela, on remet en cause profondément tous les dogmes européistes actuels.
Louis, alors, mon avis.
Je crois qu'il faut, faut voir un peu. Moi, j'ai regardé le rapport CARES, rapport sur les niches fiscales, qui date déjà de...
Alors, je rappelle que M. CARES, qui a été en charge justement de la commission aux finances, est d'ailleurs un membre de l'opposition, c'est un membre des Républicains, et son rapport, enfin, son rapport annuel, soulève d'ailleurs toute une série de questions.
Oui, il dénonce 558 niches fiscales. Bon, le chiffre n'a pas grande importance. Mais il en fait une estimation, il dit en gros 50 milliards. L'estimation de la fraude fiscale, c'est 60 milliards. Les chiffres sont quand même très proches, et c'est deux estimations. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cet élément-là? Ben, c'est effectivement le fait qu'on a une série de règles fiscales, ce qu'on appelle des dépenses fiscales, d'ailleurs, c'est assez intéressant comme terme, qui vise à soit favoriser certains développements, bon, puisque ça, c'est aussi une des fonctions de l'impôt.
Donc, de ce point de vue-là, ça serait logique de redonner de l'argent aux contribuables, de dire, voilà, on vous re-rend vos impôts. C'est un petit peu ça, la logique des niches fiscales, mais à condition d'avoir une contrepartie.
Tout à fait. Je pourrais vous en citer, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, mais à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est qui fait cette optimisation fiscale? C'est les conseillers fiscaux. D'où viennent les conseillers fiscaux? En majorité, de l'École nationale des impôts. Donc l'État paye des gens, fait la formation de gens pour diminuer l'impôt. C'est quand même un peu contradictoire. Bon, ça c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vieille question. L'OCDE s'est posé cette question à travers les prix de transfert. Bon, alors, je vais pas être très loin sur le prix de transfert.
Qu'est-ce que c'est qu'un prix de transfert?
C'est au sein d'un groupe, vous fabriquez en Irlande, vous utilisez le composant en France, à quel prix vous faites le composant? Bon. Alors, il y a toute une procédure de l'OCDE extrêmement casse-tête, et ils viennent de se reposer la question, parce qu'ils voient que c'est insuffisant, à travers ce qu'ils ont appelé érosion des bases fiscales et partage du profit. BEPS, en anglais. C'est qu'effectivement, il se pose une question de fond, qui est de dire aujourd'hui, l'érosion des bases fiscales fait que les États ne peuvent plus remplir correctement un certain nombre de fonctions et qu'il faut assurer que chacun paye où il doit. Bon, alors je vais pas rentrer dans les détails comment ils s'y rendent parce que c'est compliqué, mais je vais vous donner un simple exemple. Quand on regarde les banques françaises, le Crédit Mutuel CIC réalise 45% de ses profits à l'étranger. Banque mutualiste. Alors on va prendre la plus grosse, la BNP, elle c'est 35%. 2,4 milliards de bénéfices, c'est énorme. Bon, je crois que on voit là effectivement tout le problème des vases fiscales. Alors l'Europe a essayé de faire quelque chose, hein, je vais revenir, ça a été l'axis qui a été de revenir sur des bases fiscales, parce qu'on parle beaucoup des taux d'impôt, mais faut savoir sur quoi ça s'applique. Hein. Et alors l'idée, c'était de le faire s'appliquer sur ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je veux dire sur un indicateur commun. Et ben sur un indicateur commun, et ben le seul truc qu'on a abouti, c'est quand même très intéressant, c'est que les sociétés qui voulaient l'utiliser, pouvaient l'utiliser, ben devinez lesquelles l'ont fait, celles que ça intéressait.
Évidemment. Alors, ça pose effectivement un problème qui est un problème extrêmement sérieux. C'est que on voit d'abord que les États, à la suite de ce processus que vous, Charles Sanna, vous appelez l'ubérisation en fait de la fiscalité, mais qui a été décrit d'une autre manière par Louis Adam. Eh bien, les États se retrouvent avec de moins en moins d'argent pour faire face justement aux mêmes charges et aux mêmes dépenses qu'ils ont. Et puis, deuxièmement, on voit que en raison de ces distorsions qui existent aujourd'hui dans notre système fiscal, eh bien, l'impôt va reposer sur qui ? Ben sur les gens qui ne peuvent pas jouer le jeu de cette optimisation, autrement dit, les moyennes et les petites entreprises, mais aussi les particuliers, et essentiellement les classes moyennes. Et c'est là où on peut comprendre pourquoi les classes moyennes ont aujourd'hui le sentiment, et plus que le sentiment, c'est d'ailleurs une certaine réalité, d'être matraquées d'impôts, mais on voit très bien que l'État est d'une certaine manière contraint de le faire, parce qu'autrement, il n'arrive pas à dégager suffisamment d'argent pour ses dépenses. Alors, ceci soulève une troisième question. C'est la question de la complexité du système fiscal français. Le système fiscal français, c'est une espèce d'immense millefeuille. Grosso modo, on crée constamment de nouveaux impôts, on n'en supprime pas. Bon, on en supprime relativement peu. Ça fait penser un petit peu à ce qu'était le système légal dans l'Ancien Régime, où on avait une accumulation de lois, de privilèges, etc. Et il a bien fallu, à un moment donné, la nuit du 4 août, pour tout remettre d'aplomb et pour relancer un système moderne. Donc, on a un système fiscal français, d'ailleurs pas seulement en France, on a, l'Italie a le même problème, l'Espagne a le même problème, qui est extrêmement complexe. Et est-ce que l'on ne peut pas se poser le problème, hors de toute démagogie, le problème de la simplification et de la concentration sur certains impôts ? Charles Sanna, votre avis ?
Alors, on regarde ce qui se passe à l'étranger, le système fiscal britannique ou le système fiscal américain, par exemple, n'est pas du tout plus simple ou plus facile ou plus lisible à comprendre pour un administré que le système fiscal français. Les taux de recouvrement des impôts, notamment de l'impôt sur le revenu en France, sont actuellement excellents. On est, je crois, à 99,9%, donc tout ça, ça fonctionne bien. Et donc un impôt qui se recouvre bien est un impôt que les gens arrivent à comprendre aussi. Donc je crois pas que le problème réside fondamentalement ou essentiellement dans la complexité de notre système fiscal. Je crois que c'est un problème qui est ni tellement technique, ni tellement économique. C'est un problème qui est fondamentalement politique, et finalement cette troisième question me fait presque revenir à votre première sur le côté démagogique, mais n'oublions pas que c'est quoi l'impôt ? L'impôt, il couvre nos dépenses collectives, hein, au sens large. Bon. Alors, pour certains, ça doit être des dépenses de solidarité, pour d'autres, ça doit être des dépenses pour les activités régaliennes de l'État, à savoir police, justice, armée, défense nationale et éventuellement éducation. Et encore, pour l'éducation, ça peut se discuter dans l'approche libérale. Donc, dans l'impôt, il va couvrir les dépenses que politiquement, nous souhaitons couvrir ou pas couvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nos impôts, et depuis 40 ans maintenant, ne couvrent pas la réalité de nos dépenses. Ce qui veut dire que nous ne payons pas le coût réel des avantages que nous nous octroyons collectivement. Pareil, après, on peut discuter de toutes les typologies que l'on souhaite, je veux plus de social, je veux moins de social, plus de libéral, moins de libéral. C'est pas le sujet. Je dis simplement que factuellement, mathématiquement, quand on dépense plus qu'on ne gagne, ça veut dire que on ne finance pas le coût de ce dont on bénéficie. Il est là le vrai problème. Alors après, ben, on rajoute, effectivement, on fait des bricolages à la petite semaine, qui amènent effectivement de la complexité. À chaque fois qu'on est confronté à un problème, il y a dans ce pays aucun problème qui ne puisse être réglé par un nouvel impôt, et nos dirigeants ne savent faire que cela, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, vous avez un problème d'obésité, on vous explique qu'on va vous mettre une taxe sur les sodas. Donc, c'est le drame, ça c'est le drame de la France, donc effectivement, on a l'impression d'aller vers une forme de complexité. La réalité, c'est pas celle-là, c'est pas vers une forme de complexité que nous allons. C'est vers une augmentation inéluctable de nos impôts. Et tant qu'il n'y aura pas un renversement de table, un changement de paradigme, de règles du jeu ou de manière de voir ou de faire, nous sommes condamnés pour régler les problèmes qui se posent tous les semestres à empiler des petites taxounettes qui entraînent une conséquence évidente à la fin, c'est que la pression fiscale de demain sera toujours plus élevée que celle d'aujourd'hui. Ce qui amène d'ailleurs un conseil patrimonial, c'est vaut mieux que vous payiez vos impôts aujourd'hui que les impôts demain. Donc quand il y a de l'argent à prendre, vaut mieux le prendre aujourd'hui pour ceux qui ne peuvent pas le faire.
Louis Adam.
Oui, alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais ce n'est pas grave, on va revenir, je crois que sur la complexité, on est d'accord. Mais la complexité, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je préférais un impôt sur le revenu avec 14 tranches comme en 86, que avec 5 tranches comme en 2007, comme depuis 2007. Pourquoi ? Parce que cet impôt, au moins, il était plus proportionnel, plus juste. Il y a aussi une campagne idéologique très forte sur il y a trop d'impôts. Bon, quand on regarde la dépense publique par rapport au PIB, ou même on a à peu près en absolu allez, je vais aller dire en francs constants, en euros constants, ça dépend comment on la transforme, puisque les deux existent. Grosso, cette dépense publique, elle augmente pas de manière considérable. Hein. On reste toujours dans des taux à peu près comparables. Par contre, ce qui a fortement baissé, c'est les impôts. Ce qui a fortement augmenté, c'est les taux d'intérêt payés par l'État. Alors, c'est un peu en train de baisser, vu le niveau actuel des taux d'intérêt, mais c'est les deux postes qui ont le plus bougé.
Alors,
plus
simplement, la dépense. Simplement, je t'interromps pour te poser une question. Est-ce que l'on a, sur longue période, une estimation de ce que représente la fraude fiscale? Parce que tu as dit 60 milliards d'euros, ça ouais. correspond grosso modo à 3% du PIB. Est-ce que c'est constant depuis 20 à 30 ans? Est-ce que ça diminue ou est-ce que ça augmente?
Alors, on a grosso modo le chiffre, c'est le chiffre des années 85. Et depuis 85, il ne bouge pas. Ce qui bouge, par contre, c'est l'autre que j'ai donné, c'est l'optimisation fiscale qui bouge.
D'accord. Donc, autrement dit, ce qui est illégal, ça a toujours représenté, grosso modo, 3% du PIB. Par contre, on voit augmenter, évidemment, ce qui est, entre guillemets, légal, même si c'est pas nécessairement éthique, mais c'est légal. Et là, effectivement, on voit monter. Alors, par rapport aux années 85, est-ce qu'on a des chiffres?
Par rapport à 85, non, on n'a pas vraiment de chiffres. Tout ça ne sont que des estimations. Mais on a sur les 60 milliards, si on prend actualisé, on a à peu près ça. Ça a augmenté par rapport aux années 70. Dans les années 70, les estimations étaient plus basses. Alors, elles étaient plus basses, est-ce que les estimations étaient plus mauvaises? Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je pense qu'effectivement, on avait un consentement à l'impôt plus fort dans les années 70.
Alors ça, c'est un point important, parce que je reviens sur ce qu'a dit Charles Sanna. La question de l'impôt est éminemment politique.
Oui.
C'est une question éminemment politique. Et là, je pense que vous serez effectivement en accord l'un et l'autre. C'est la question à la fois du consentement à l'impôt, c'est aussi la question du choix de modèle social. Alors effectivement, on peut choisir un modèle social très libéral, comme on a aux États-Unis. On peut choisir un système social qui est beaucoup plus intégrateur qu'à de la Suède, qu'à des pays de l'Europe du Nord. Ce choix est politique, encore faut-il l'assumer dans la réalité et faut-il s'assurer qu'il n'y a pas des acteurs qui se donnent les moyens, d'évader ce cadre fiscal.
Mais on est en train de se le donner. Quand tu vois la répartition entre les impôts directs et les impôts indirects, ce que je donnais tout à l'heure, T'as 6 milliards aujourd'hui d'impôts directs et 18 milliards d'impôts indirects. C'est ce qui fait, je donnerai un dernier chiffre, les 10% plus riches payent 3% de TVA, les 10% plus pauvres en payent 8%.
C'est effectivement quelque chose qui donne à réfléchir.
Je ne veux pas aller plus loin.
Voilà, non mais tu as tout à fait raison. Charles Sana, merci beaucoup. Louis Adam, merci beaucoup. C'est maintenant la fin de cette émission qui était consacrée aux problèmes de fiscalité et de dépenses publiques dans le cadre de la campagne présidentielle. Et je pense que nous aurons très certainement l'occasion de revenir sur ce sujet, car nous n'avons fait, je dirais, que gratter la surface du sujet. Et j'aurai très certainement l'occasion de vous réinviter à cette antenne. Merci beaucoup.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.